L'activité physique pour tous, c'est le pari que fait Maud Émilie Méthode, kinésiologue. La voici dans Studio 158 en direct.
Bien le bonjour!
Bon matin, tout le monde.
Cela va bien, oui?
Oui, très bien. On a de la belle lumière ce matin.
Oui. Bref, c'est ça, parce que quand t'es passé la semaine dernière, on n'avait pas encore changé l'heure. C'était très, très sombre.
Exact.
Maintenant, c'est mouillé pas en plus. Là.
Ouais, ben,
ça aide pas à la cause. Là.
Non, c'était nuageux, si je me souviens.
C'était juste nuageux, ouais, ouais. C'est ça. Ben oui, effectivement, ça aide à la cause. On est un peu dans le suivi de la semaine passée ce matin.
C'est ça. En fait, on va faire, dans le fond, une suite à la chronique. Cette semaine, on va parler des symptômes les plus communs à l'effort dans un contexte où est-ce que les gens ont plusieurs maladies chroniques.
Oui.
Et des bénéfices et des risques qui sont associés. En fait, on se rappellera, là, la semaine passée, on a conclu que les individus qui ont plusieurs comorbidités ou plusieurs maladies chroniques qui sont stables devraient initier l'activité physique car les bénéfices associés à cette pratique régulière dépassent amplement les risques.
Oui.
Puis là, je vous disais que le papier selon lequel je me référais, qui a été publié très, très récemment en septembre, d'un consensus d'experts, nous amenait une vision un peu différente de ce qu'on a l'habitude. Au lieu de séparer les problématiques par catégorie de maladies ou de problématiques,
ouais,
il séparait plutôt par symptômes. Fait que ça permettait,
okay,
de venir inclure un petit peu plus là, les gens dans ça, et peut-être qu'ils vont se reconnaître un peu mieux à travers les symptômes plutôt qu'à travers les maladies spécifiques. Donc, il y a 8 symptômes qui ont été répertoriés, mm-hmm, par le consensus, puis un petit peu les recommandations par rapport à ça. Alors, on va les passer ensemble. Donc, toutes maladies confondues aujourd'hui,
oui,
c'est les symptômes qu'on se fie principalement.
Oui, on fixe ça.
Et voilà. Alors, le premier, c'est les douleurs musculo-squelettiques.
Oui.
Donc, ça, c'est sûr que ça l'affecte là, une grande partie de la population d'avoir mal un petit peu partout. Donc, une augmentation temporaire de la douleur est normale quand on commence à faire de l'activité physique.
Mais tu as dit le mot temporaire.
Oui, exactement. Mm-hmm. Temporaire est normale, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une création de dommages au niveau tissulaire. Fait que c'est pas que j'ai plus mal que j'ai nécessairement un bobo qui va se créer au niveau de mes tissus, que ce soit mes ligaments, que ce soit mes tendons, que ce soit mes muscles.
Okay.
Alors ça, c'est rassurant pour les gens.
C'est une réaction normale.
Et voilà. Cette exacerbation devrait rentrer dans l'ordre lorsque le corps se sera adapté aux nouvelles contraintes d'activité physique qu'on lui demande.
Excellent.
Alors, c'est temporaire, c'est vraiment là le mot-clé.
Oui.
Puis c'est normal que ça fasse un peu plus mal au début.
Temporaire, combien de temps?
Ben, c'est une bonne question, ça dépend des gens.
C'est ça, hein? Il n'y a pas de norme comme telle, dans le fond.
Oui, parce que ça dépend de l'adaptation que le corps va créer.
Oui.
Mais j'aurais tendance à dire là, que c'est pas très, très long. Là.
OK.
Oui, normalement, ça rentre dans l'ordre. Puis il faut doser, là. Si on dose bien notre effort, ça devrait pas être si pire que
effectivement,
ça.
Effectivement, oui,
si on va vraiment
raison.
Trop, trop rapidement dans notre progression, ben là, on peut avoir certaines,
on paye
certaines
pour.
Problématiques. Voilà. deuxième symptôme, c'est la fatigue.
Okay.
La fatigue, là, c'est quelque chose qui est présent dans presque toutes les maladies chroniques. Alors, beaucoup, beaucoup de gens qui vont se retrouver avec ce symptôme-là. Alors, une augmentation, encore une fois, temporaire de la fatigue est normale.
OK.
Donc, l'activité physique permet de
ça
réduire...
Ça peut être décourageant pour les gens qui ont déjà cette problématique-là.
Voilà. Donc, si on sait que ça va augmenter un petit peu, par exemple...
On peut dire, ouf, j'en ai déjà assez à gérer ce que j'ai. Ouais.
Oui, mais en même temps, de le savoir que c'est normal, des fois, ça peut réconforter un peu les gens, de se dire que c'est encore une fois temporaire.
C'est passager, oui.
Voilà. Donc, faut garder ça en tête. Puis, il ne faut pas oublier non plus que l'activité physique régulière permet de réduire la fatigue.
Ben oui, ça peut amener ça plus tard.
Oui. Ça permet aussi d'améliorer la qualité du sommeil et le bien-être en général. Entre autres, pour les gens qui ont un cancer ou qui sont survivants d'un cancer, l'activité physique est le meilleur moyen de traiter la fatigue post-traitement ou post-maladie.
Oui.
Fait que c'est vraiment le seul.
Parce que c'est difficile, là, cette période-là, pour ces gens-là.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de fatigue résiduelle et ça dure très, très, très longtemps pour eux. Là.
Ouais.
Alors, c'est un des seuls moyens de traiter cette fatigue spécifique au cancer. Troisième symptôme, c'est l'essoufflement. L'essoufflement, encore une fois, très, très fréquent, que ce soit au niveau des maladies plus cardiovasculaires qu'au niveau des maladies pulmonaires. Donc, l'activité physique permet, dans le fond, de dédramatiser un petit peu l'essoufflement parce que de faire de l'exercice, ça cause de l'essoufflement chez tout le monde.
Ben oui, absolument.
Hein? Bien sûr, tout dépendamment du niveau de forme de la personne et de l'intensité pratiquée. Donc, mais c'est normal d'être essoufflé à l'effort. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas nécessairement.
Ouais.
Un essoufflement qui est contrôlé et qui est normal, on n'a pas de problème. C'est un essoufflement qui est hors proportion, que là, ça peut nous inquiéter un peu plus.
OK.
D'ailleurs, l'essoufflement, ça peut être anxiogène, parce que pour les gens qui ont des problèmes de poumons, par exemple, une certaine limite qu'on ne veut pas dépasser. Alors, c'est certain qu'il faut faire attention avec ça. Puis, c'est recommandé de commencer la pratique d'activité physique à un niveau et une intensité faible et de progresser lentement, mais sûrement. Le quatrième symptôme, c'est les douleurs thoraciques d'origine cardiaque. Ça, c'est un peu plus spécifique aux maladies cardiovasculaires. Mm-hmm. Alors, les bénéfices à long terme de l'activité physique chez les individus qui ont des maladies cardiovasculaires ischémiques va dépasser la légère et temporaire augmentation du risque de faire de l'angine à l'effort.
Okay.
Alors ça, c'est pas peu dire.
Absolument.
Et on se rappellera que l'activité physique, c'est un des meilleurs moyens de favoriser l'angiogénèse. Ça, c'est la création de nouveaux vaisseaux sanguins au niveau du cœur. Alors, ça peut aider à diminuer l'angine à l'effort. Alors, hyper
intéressant. Ben oui.
Cinquième symptôme, c'est... appelons ça un symptôme quand même, c'est le risque de chute et la fragilité, souvent chez nos aînés. Donc, les individus qui sont frêles et inactifs ont fort à gagner en augmentant leur force et leur équilibre.
Oui.
De légères améliorations vont réduire le risque de marche de manière significative et améliorer la confiance en soi. Les activités, bien sûr, devront être adaptées à la capacité fonctionnelle et cognitive des individus, puisqu'on parle de populations plus âgées.
Oui.
Le sixième symptôme est probablement celui le plus important de consulter des professionnels de la santé par rapport à celui-là, c'est les problèmes au niveau de la gestion de la glycémie. Donc, un peu plus pour les personnes qui font du diabète.
Ouais.
L'activité physique va amener un risque à court terme de dysglycémie, donc de changement au niveau de la glycémie chez les individus qui sont diabétiques. Alors, l'hypoglycémie, c'est-à-dire la baisse de sucre, est l'effet négatif le plus commun chez les diabétiques qui sont traités avec de l'insuline ou des sécrétagogues de l'insuline. C'est un autre type de médicament.
OK.
Cet effet peut être récurrent s'il n'est pas pris en charge de manière adéquate. Il faut faire attention à ça. Alors, le risque d'hypoglycémie sévère, quant à lui, n'est pas augmenté lors de la pratique d'activité physique de manière générale. Alors, c'est pas un...
Il faut juste être vigilant, avoir une espèce de code jaune là-dessus. Là.
Oui, c'est pas une raison de ne pas faire de l'exercice.
Absolument,
ça n'augmente pas le risque d'hypoglycémie sévère, mais il faut prendre ça en compte. Faut que les gens soient conseillés par rapport à ça de manière là, spécifique.
Excellent.
Puis, il faut pas oublier qu'à intensité élevée, la glycémie peut augmenter. Alors, pour les gens qui sont diabétiques, ça doit être pris en compte par leur équipe traitante et les professionnels qui les entourent, parce que si quelqu'un pratique une intensité très, très élevée, ben on peut avoir un rebond de la glycémie post-effort. Alors, ça, c'est important d'en tenir compte. Il nous reste deux derniers symptômes.
Uh-huh.
Alors, on a le numéro 7, les palpitations.
Oui.
Alors, une augmentation de la perception de la fréquence cardiaque à l'effort, ça aussi, ça peut être anxiogène. On parlait de l'essoufflement.
Oui.
Mais aussi de sentir son cœur battre plus vite. Quand on fait de l'exercice, ça peut créer de l'anxiété chez les gens qui ont des problèmes au niveau de leur du rythme de leur cœur. Alors, l'activité physique est contre-indiquée chez les individus qui ont des arythmies symptomatiques et non traitées. Fait que si vous avez l'impression que le rythme de votre cœur n'est pas normal et que ça serait la première fois que ça vous arrive, c'est pas connu, c'est pas traité, vous ne devez pas faire d'activité physique.
OK, on consulte. OK,
exact.
C'est un signal.
Oui. Par contre, les individus qui ont de la fibrillation auriculaire, qui est une des arythmies les plus communes, quand c'est connu et traité, ils vont bénéficier d'une activité régulière, d'une activité physique régulière. Alors, pour ces gens-là, il n'y a pas de contre-indication.
Il faut juste être diagnostiqué.
Oui.
Puis après ça, on pourra reprendre les activités.
Oui. Exact. OK. À moins qu'il y aurait une contre-indication
directe,
mais si ce n'est pas le cas, on n'a pas
de
problème.
Absolument, OK.
Et le dernier symptôme ou situation, encore une fois, c'est les troubles cognitifs. Alors, des stratégies qui permettent de maintenir la motivation, l'engagement, la sécurité, bien, c'est hyper important quand on travaille avec des populations qui ont des troubles cognitifs. Les individus vont bénéficier souvent d'un support aussi à la pratique d'activité physique, donc d'avoir quelqu'un qui les accompagne directement ou de pratiquer l'activité physique en groupe.
Okay.
Alors ça peut être hyper intéressant. Puis il faut prendre en compte, encore une fois, le niveau fonctionnel, le stade de la maladie, par exemple avec l'Alzheimer ou le Parkinson, les habiletés de communication, l'environnement, le risque de chute et les autres conditions médicales qui vont affecter cette population qui est, encore une fois, vieillissante. Donc, le risque de multiples comorbidités augmente évidemment.
Ça augmente aussi en plein
avec l'âge et l'inactivité. Donc, voilà, les 8 symptômes, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en aucun cas, j'ai mentionné que ces symptômes ne valait pas la peine de faire de l'activité physique.
Absolument.
Alors, très, très intéressant. Il faut juste se référer à nos professionnels de la santé.
Oui,
les
kinésiologues
sont là, évidemment, pour aiguiller.
Ils sont bien contents de vous entendre dire que vous vous engagez dans un programme où vous bougerez davantage.
Ah, ça fait toute la différence. Alors, super intéressant de pratiquer. Et ça fait le tour de nos 2 semaines de chronique
sur
ce fameux papier anglais qui était, ma foi, très intéressant.
Excellent. Ben merci, Maud-Émilie. Les 55 ans et plus, ça se poursuit.
Oui, ça se poursuit à toutes les semaines.
Oui.
Alors, oui. Voilà, il y a de la place là, si jamais les gens veulent participer. On a un petit peu de place. Je m'attendais à un achalandage un petit peu plus élevé. Quoique, c'est tout à fait adéquat. Je suis bien contente en ce moment. On a une belle base. Mais il y a toujours quelques petites places de disponibles.
55 ans et plus,
voilà.
C'est gratuit.
Oui.
C'est où?
En ce moment, au Centre Amitié Autochtone, juste l'autre côté de la rue.
Oui.
Les mardis de 9h à 10h. Si vous voulez venir, je vous encourage à communiquer avec moi, soit à travers la clinique, le groupe de médecine familiale partout à travers la région, soit Grace Hill ou Maniwaki, ou encore par le CLSC de Maniwaki, juste pour me faire un petit coucou avant que...
Aviser de la présence voilà, de nouvelles personnes.
De vous présenter. Ouais.
Bonne semaine, Maud Émilie.
Merci, bonne semaine.
Au revoir.
Un autre moment bon pour nous, avec la kinésiologue Maud Émilie Métotte, qui nous reviendra la semaine prochaine.